Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous une excellente et joyeuse fête de la Pentecôte. Vous savez que c'est en ce jour, la fête de la Pentecôte en l'an 31, que Dieu a fait descendre son Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ.
C'était le début de l'Église chrétienne à laquelle nous participons encore aujourd'hui. Reportons-nous s'il vous plaît dans Actes chapitre 2, verset 1. Relisons ces débuts quand le Saint-Esprit est venu à l'intérieur des disciples de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un passage, je crois, que vous connaissez bien, le début de l'Église de l'époque du Nouveau Testament, ou l'Église primitive, l'Église chrétienne, commençait avec cette descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle très important dans la vie de nous tous, frères et sœurs. Il est important pour nous d'être conscients de son œuvre et de comprendre ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, comment Dieu œuvre à travers son Esprit pour accomplir sa volonté en nous. Romains chapitre 4, juste quelques pages plus loin dans le livre suivant, Romains chapitre 8 et le verset 9, nous montre l'importance d'avoir le Saint-Esprit en soi. Si on n'a pas le Saint-Esprit, si nous n'avons pas fait ce qui est nécessaire pour recevoir ce don, la Bible dit que nous n'appartenons pas à Christ. Romains chapitre 8 et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si quelqu'un, nous avons lu au verset 9, n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous pour être véritablement chrétiens, pour appartenir à notre frère aîné Jésus-Christ et à notre Père Céleste. Mais quelques versets plus loin, dans le verset 14, nous apprenons qu'il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir reçu ce don. Il y a autre chose, nous devons aller plus loin encore, Romains chapitre 8, toujours verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour être chrétiens, nous devons recevoir le Saint-Esprit, mais nous devons aussi nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui doit se passer tous les jours. Alors j'ai une question importante pour vous aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Comment pouvons-nous savoir? Est-il possible de savoir? Et si oui, comment? C'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Comment savoir si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Eh bien, tout d'abord, rappelons-nous ce qu'est le Saint-Esprit de Dieu. Qu'en dit la Bible? Eh bien, un des passages qui explique cela, c'est dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, nous n'allons pas tellement étudier ce que c'est que le Saint-Esprit aujourd'hui, mais plutôt comment le Saint-Esprit œuvre dans nos vies et comment nous pouvons savoir si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais rappelons-nous quand même ce que la Bible dit à propos du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Verset 7, les disciples voulaient savoir ce qui se passait. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand l'explication a été donnée ici, à propos de ce qu'était le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit allait apporter et ce que c'était, il est décrit comme une puissance. Le mot grec, c'est dynamis. C'est l'origine de notre mot en français dynamique ou dynamite. C'est donc énergie, pouvoir, puissance. C'est la nature de Dieu. C'est la force par laquelle Dieu œuvre. Quand Dieu accomplit quelque chose, c'est par son Saint-Esprit qui émane de lui qu'il accomplit ce qu'il accomplit. Si nous revenons dans Romains chapitre 8, où nous étions il y a un instant, il y a un autre verset que j'aimerais lire avec vous. Romains chapitre 8, nous allons retrouver dans plusieurs endroits cette idée de puissance, de pouvoir de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, cette fois-ci verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est par le Saint-Esprit en nous que Dieu nous relèvera de la mort et qui nous donnera la vie éternelle. C'est son esprit en nous qui rend cela possible. Sa force va jusqu'à ce point-là, jusqu'à la résurrection des morts, même des morts qui sont morts depuis longtemps. Il y a un autre passage qui explique, qui nous donne un aperçu du moins, puisque je suis convaincu personnellement que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre la puissance de Dieu, mais il y a un passage que nous devons lire dans Psaume 139 qui explique un peu l'étendue de la puissance et le champ d'action de l'Esprit de Dieu quand Dieu agit par son Saint-Esprit. Psaume 139, à partir du verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Le champ d'action, le champ de compréhension, de savoir de Dieu s'étend à tout ce qui se passe dans nos vies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Nous ne pouvons qu'imparfaitement imaginer la puissance de Dieu, l'étendue de son pouvoir. Ce pouvoir qui fait sentir ou manifester par son Saint-Esprit. Où irai-je, verset 7, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Il est question, il est bien question de l'Esprit de Dieu ici. Si je monte aux cieux, tu es là. L'Esprit de Dieu est là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, l'intérieur de nous-mêmes, les organes intérieurs, nos pulsions, nos pensées intérieures, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le corps humain est vraiment époustouflant. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Le Saint-Esprit est omniprésent, partout à la fois. L'Esprit de Dieu est tellement grand, jusqu'à l'infini, que Dieu peut entendre toutes les prières de son peuple et prêter une attention particulière à chaque personne. Vous imaginez ça? Nous sommes des milliers de personnes partout sur la terre, il y en a en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, etc. Dieu peut nous écouter tous et nous prêter une attention particulière à chaque personne. Quand on prend le temps d'y réfléchir, frères et sœurs, c'est vraiment étonnant, époustouflant, épatant. Aussi loin que l'on puisse aller dans l'espace, Dieu est toujours là. Il est omniprésent à travers la présence de son Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est intimement lié à notre progrès spirituel. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est au loin, c'est aussi quelque chose qui sonde ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quand Dieu commence à travailler avec nous, nous sommes spirituellement morts. C'est ce que nous voyons ici, spirituellement morts. Et c'est quand Dieu commence à agir en nous par son Saint-Esprit qu'il nous réveille, qu'il nous ramène à la vie spirituellement parlant, comme s'il y avait une plante morte, desséchée, et puis il ramène à la vie, il rend verdoyant de nouveau. C'est ce que Dieu fait avec nous, et c'est son Saint-Esprit qui fait cela en nous. C'est même par son Saint-Esprit que Dieu nous attire vers lui tout au début. Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44, un passage hautement important pour comprendre beaucoup de choses que Dieu fait dans son plan. Jean 6, 44 dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » On ne peut pas venir se porter volontaire auprès de Dieu. Dieu doit nous appeler hors de ce monde de ténèbres où les gens sont aveuglés par les séductions de Satan le diable. Et comment est-ce que Dieu nous appelle comme cela? Il nous appelle par son Saint-Esprit. C'est ça qui tourne la clé dans notre esprit pour nous permettre de comprendre et de répondre à l'appel que Dieu nous adresse. Regarde aussi Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Toujours en guise d'introduction à ce que nous allons regarder, la question que nous voulons comprendre, c'est comment pouvons-nous savoir si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Mais lisons un dernier, enfin deux ou trois passages encore avant d'arriver au point concret et précis. Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Jusqu'au verset 15. Nous sommes dans la parabole du semeur et des terrains. Voici ce que signifie cette parole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Il a laissé étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et il ne porte point de fruits qui ne viennent à maturité. Ceux qui tombaient dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dieu nous appelle, son Saint-Esprit vient nous ouvrir l'esprit, nous permet de comprendre, de voir des choses que nous ne voyons pas auparavant. Et quelle est notre responsabilité? C'est d'entendre la parole avec un cœur honnête et bon, et la retenir. Nous devons répondre à l'appel de Dieu avec un cœur honnête et bon, une attitude positive, une attitude de bonté et d'honnêteté. Et nous devons toujours garder cela. Romains chapitre 2 montre que c'est Dieu qui nous amène au repentir. Et là aussi, quand Dieu accomplit quelque chose en nous, c'est par sa puissance, c'est-à-dire par son Saint-Esprit qu'il accomplit. Romains chapitre 2, nous allons voir pas mal de passages qui soulignent cette vérité aujourd'hui. Romains chapitre 2, verset 4. Nous voyons ici que c'est par son Saint-Esprit que Dieu nous amène au repentir et à la conversion. Nous savons en effet que le jugement de Dieu... verset 2. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Comment est-ce que cette bonté de Dieu est manifestée? Eh bien, c'est par son Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit par son Saint-Esprit et qui nous pousse, qui nous amène au point où nous pouvons comprendre le péché. Nous pouvons comprendre l'erreur de nos voies passées, de nos vies passées, que nous avons besoin de nous repentir et de changer. Cela est rendu encore plus clair dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Le verset 3 dit « Sa divine puissance ». Alors, quelle est la divine puissance de Dieu? Nous avons déjà lu dans Actes chapitre 1, verset 8. La puissance divine de Dieu, c'est son Saint-Esprit. C'est par cette puissance-là qu'il œuvre. Alors, quand nous lisons ici, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance », ça veut dire le Saint-Esprit. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. » Sa divine puissance, c'est ça. Sa divine puissance nous fait participer à la nature divine même, il est marqué au verset 4. Est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire vraiment? Quand l'Esprit de Dieu est en nous, agit en nous, il y a du divin en nous. Pas que nous sommes devenus divins, et pas dans un sens mystique selon les religions asiatiques, mais quand l'Esprit de Dieu agit en nous, son esprit est divin, et de Dieu lui-même. Nous participons à sa nature quand sa divine puissance est à l'œuvre dans nos vies. Nous voyons à travers ces différents passages à quel point l'œuvre du Saint-Esprit est intimement liée à notre appel, à notre développement chrétien, à notre progrès, et finalement à notre résurrection, à notre entrée dans le royaume de Dieu. Dieu fait tout cela, étape par étape, tout au long de notre existence chrétienne, spirituelle, par sa puissance, sa divine puissance, le Saint-Esprit. Mais revenons à cette question que je vous ai posée il y a quelques instants. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Et ce que j'aimerais passer en revue avec vous maintenant à travers différents passages bibliques, c'est 12 façons par lesquelles le Saint-Esprit œuvre dans nos vies. Et en regardant ces 12 façons, nous allons pouvoir nous poser la question, est-ce que cela se passe dans ma vie? Est-ce que ces choses-ci sont à l'œuvre, sont visibles dans ma vie? Et si oui, et je crois que ce sera le cas, nous devons être rassurés, encouragés. Et si nous voyons, et ce sera probablement le cas aussi, qu'il y a un point ici ou là qui n'est pas aussi pleinement là qu'il devrait être, eh bien c'est le moment de demander à Dieu de réactiver son Saint-Esprit, d'agir plus puissamment, plus ouvertement, plus activement par son Esprit Saint en nous, pour que nous montrions, pour que nous ayons tout ces différents points à l'œuvre dans nos vies. Alors tout d'abord, premier point, se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 24. 1 Jean chapitre 3, verset 24. 1 Jean chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qui demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Nous connaissons qui demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous met sur la même longueur d'onde spirituelle que notre Père. Il intervient auprès de notre esprit pour nous attacher à Dieu, pour nous donner cette conscience, pour nous donner la réalisation que nous sommes attachés à notre Père céleste, qu'il demeure en nous et que nous demeurons en lui. Nous avons cette prise de conscience quand le Saint-Esprit œuvre en nous. De la même manière, notre pensée peut alors atteindre un autre niveau de réflexion. Nous pouvons commencer, comme nous le verrons dans d'autres passages tout à l'heure, nous pouvons commencer à comprendre les choses de Dieu, ce que nous ne pouvions pas faire avant. Et tout ceci est vital pour notre croissance. Alors ça, c'est le premier point que nous voyons. Le Saint-Esprit nous met sur la même longueur d'onde spirituelle de notre Père. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit. C'est son Saint-Esprit qui nous donne cette réalisation. Nous comprenons cela, frères et sœurs. Vous comprenez que Dieu œuvre en vous, qu'il accomplit sa volonté, qu'il y a une croissance, qu'il travaille avec vous. Et vous avez cette réalisation parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie. Un deuxième point, deuxième manière par laquelle le Saint-Esprit œuvre dans nos vies, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons commencer au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre ces choses. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire sans l'intervention du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit en lui, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est ce que fait l'Esprit de Dieu. Comment il œuvre en nous. En d'autres termes, le Saint-Esprit permet une compréhension spirituelle des choses de Dieu. C'est ce que nous venons de lire. Des choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas cette intervention. Vous savez, la plupart des gens qui errent sur la terre maintenant, ils savent poser de bonnes questions, mais ils ne savent pas où chercher les réponses à ces questions. À quoi sert la vie? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je dois accomplir dans cette vie? Beaucoup de gens, la vaste majorité des gens sur la terre, sont perdus, un peu comme Christophe Colomb. Vous savez, quand Christophe Colomb a fait son grand voyage dans le Nouveau Monde, le pauvre Christophe Colomb avait des idées fausses. Il ne savait pas où il allait. Il pensait aller dans un endroit, en fait, il est arrivé dans un autre. Il ne savait pas où il allait avant de partir, ni où il était quand il est arrivé. Il ne savait pas où il était à ce moment-là. Il se trompait sur l'endroit. Et même quand il est revenu, il ne savait toujours pas où il avait été. Il a fait une découverte importante, mais sans le savoir, sans comprendre ce qu'il avait fait. Et la plupart des gens sur la terre sont comme ce bon Christophe Colomb. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils sont. Et ils ne savent pas non plus où ils ont été. Et ils ne peuvent le comprendre parce qu'ils n'ont pas accès au Saint-Esprit de Dieu pour le moment. Par son Saint-Esprit, Dieu donne la capacité de saisir les liens entre passages différents de la Bible, par exemple. Vous savez que la vérité dans la Bible est révélée un peu ici et un peu là. Et il y a des gens bien plus intelligents que vous et moi qui lisent la Bible depuis toute leur vie, et cela depuis des milliers d'années maintenant, mais qui sont incapables de comprendre l'interaction des passages comment ceci se lie à cela pour former le tableau d'ensemble de la vérité dans la Bible. C'est ça la compréhension spirituelle que Dieu nous permet d'avoir. C'est quand le Saint-Esprit tourne la clé dans notre esprit et ouvre cette porte, retire le voile. C'est là où nous pouvons arriver à cette compréhension. Quand nous comprenons cela, frères et sœurs, nous devons nous rendre compte que ce serait vraiment dommage de ne pas profiter tous les jours de ce privilège, de plonger nos regards dans la parole de l'Éternel. Il y a peu de gens sur la terre aujourd'hui qui ont le privilège, par la grâce de Dieu, de pouvoir vraiment comprendre sa parole. Et parfois, nous ne profitons pas pleinement de ce privilège, n'est-ce pas? Nous laissons un jour passer, peut-être même plusieurs jours passer des fois, sans plonger nos regards dans sa parole. Quel dommage, quand nous avons le privilège de faire partie du petit nombre de gens relativement parlants sur la terre qui le comprennent, qui peuvent le comprendre. Le Saint-Esprit de Dieu permet une compréhension spirituelle des choses de Dieu que l'homme naturel, à part le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre. Voyez-vous des fruits de cela dans votre vie? Ça devrait être le cas pour nous, frères et sœurs. Troisième moyen par lequel le Saint-Esprit œuvre dans nos vies se retrouve dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 13. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons faire, comme il est marqué ici, mourir les actions du corps, c'est-à-dire ce qui nous vient physiquement, charnellement à l'esprit, les pulsions que nous ressentons, mais qui iraient à l'encontre du mode de vie de notre Père céleste. Dieu nous transmet par son Saint-Esprit la puissance nécessaire pour surmonter et vaincre les œuvres de la chair qui vont à l'encontre de ce mode de vie. Notre côté charnel, nous devons bien le comprendre, nous tire dans de mauvaises directions de temps en temps. Cette nature est toujours là, sous-jacente, attendant le moment, si on veut le regarder comme ça, de nous fourvoyer, de nous amener dans un mauvais sens, dans une mauvaise direction. Mais nous avons, grâce à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous avons à disposition la puissance, le pouvoir nécessaire de mater ces pulsions. Nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu, mais c'est une chose que l'Esprit fait en nous. Nous pouvons faire mourir les actions du corps. Et c'est ça, le verset 13 nous dit là, qui va nous faire, en fin de compte, vivre. C'est ça qui va nous aider à réussir dans notre parcours chrétien, si nous arrivons à faire mourir les actions du corps. Et vous et moi, frères et sœurs, est-ce que nous faisons mourir les actions du corps? Ou est-ce que nous nous sommes rendus dans certaines luttes? Oh ça, je ne vais pas lutter contre, c'est trop difficile. Non, nous ne devons pas abandonner ce combat. Nous devons agir toujours, et nous avons toujours à notre disposition l'aide de Dieu pour le faire. Est-ce que nous faisons mourir les actions du corps? Est-ce que nous faisons cela de manière constante dans nos vies? Ça devrait être le cas. C'est une manière par laquelle le Saint-Esprit œuvre dans la vie des chrétiens. Quatrième chose que le Saint-Esprit fait quand il œuvre dans la vie de quelqu'un, ce quatrième point se retrouve dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 14. Prenons le verset 12 pour ne pas complètement couper le contexte ici. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Rappelons-nous que quand Dieu agit en nous, c'est par son Saint-Esprit qui le fait. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu qui guide, qui détermine ce que le Saint-Esprit va faire, mais c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier, c'est là où il y avait la gloire, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait plusieurs choses ici. Il produit en nous le vouloir. Il peut renforcer notre volonté, notre désir même de continuer quand nous sommes découragés ou fatigués. Nous avons un deuxième souffle, grâce à Dieu. Non seulement le vouloir, mais aussi le faire. Il nous donne la puissance de continuer. Et puis, en plus, dans le même ordre d'idée, au verset 14, il nous donne le pouvoir, la puissance de faire des choses sans murmure ni hésitation. Sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tout ça va avec la volonté que nous avons déjà vue au verset 13. Car les toutes choses dont il est question, c'est toutes choses, c'est accomplir la volonté de Dieu. Les bonnes actions indiquées par l'Esprit de Dieu. L'obéissance aux instructions et la volonté de notre Père Céleste. Et nous pouvons faire tout cela sans hésiter, sans être divisés dans notre esprit, et sans murmurer, sans nous plaindre. « Oh, j'aime pas ça, c'est trop dur, c'est pas juste », et ainsi de suite. D'ailleurs, la Bible parle beaucoup sur le fait que Dieu n'aime pas l'attitude de murmurer, il n'aime pas cette attitude de se plaindre constamment. Et c'est pourtant l'esprit de notre siècle. Il n'y a presque pas une chose qui se passe au niveau d'un gouvernement dans le monde quelconque, qu'il n'y ait pas des gens qui se plaignent. Ce n'est pas juste. Il y a même des personnes qui montent de l'opposition, des manifestations. C'est leur profession d'organiser des manifestations de protestation. On proteste contre ceci ou cela. Cette attitude-là n'est pas l'attitude que Dieu veut voir en nous. Il dit de faire toutes choses, de suivre sa voie de vie, de vainquer à nos responsabilités chrétiennes, sans murmure ni hésitation. D'y aller franchement, avec une attitude positive, j'y arriverai. Et cette attitude-là nous vient par le Saint-Esprit. Alors, quant à nous, frères et sœurs, qu'en est-il? Avons-nous cet esprit positif, cette attitude positive de vouloir obéir à Dieu, participer à son œuvre, à son plan maintenant, faire ce que nous avons à faire sans murmure ni hésitation? Ou est-ce que parfois nous avons l'esprit de protestation contre Dieu ou la manière où il a organisé les choses? C'est pas juste, ça aurait dû être autrement, c'est pas bien, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit nous donne la possibilité d'avoir cette attitude positive. La retrouvons-nous chez nous? Sinon, c'est peut-être le moment de demander à Dieu d'activer cet aspect du Saint-Esprit dans nos vies, cet aspect de son œuvre plutôt, de faire en sorte que nous ayons davantage cette attitude, d'y aller franchement, sans murmure ni hésitation. Et nous pouvons demander à Dieu, comme nous avons vu au verset 13, de produire en nous le vouloir, une bonne volonté, d'aller de l'avant volontairement, et aussi de nous donner la force nécessaire pour le faire, le vouloir et le faire. Ça, c'est le quatrième passage qui nous montre l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le cinquième se trouve dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 6. Jean chapitre 16, verset 6. Jésus explique certaines choses qui vont arriver dans l'avenir. Et il dit au verset 6, « Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Mais il dit au verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde concernant le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est envers le monde, mais Dieu fait la même chose en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Il nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, c'est-à-dire il nous rend plus conscients et sensibles à la présence du péché. Nous sommes plus sensibles quand le péché est là, la rébellion contre la voix de Dieu, les attitudes qui vont à l'encontre de la mode de vie de Dieu. Et nous devons garder cette sensibilité. Une des tactiques préférées de Satan, c'est l'usure. Ce n'est pas toujours l'attaque frontale, parfois il utilise ça aussi, mais une de ses tactiques préférées, c'est l'usure. C'est de nous user par le temps, de faire venir un assoupissement lent, sous une pression constante, mais parfois imperceptible ou presque imperceptible. Juste un peu de pression toujours en toile de fond, mais constante, qui est toujours là. Et puis ça nous use avec le temps. Et il y a un assoupissement lent qui s'opère. Mais l'Esprit de Dieu nous éveille. Il éveille notre conscience. Il nous met en garde contre ces attaques sournoises. Il nous convainc en ce qui concerne le péché et la justice. Il nous rend plus sensibles quand une attitude est là qui ne devrait pas être là chez nous. Quand nous sommes tentés d'agir de telle ou telle manière, quand nous savons au plus profond de nous-mêmes que ce n'est pas selon la volonté de Dieu ou sa mode de vie. Le Saint-Esprit de Dieu nous réveille de ces assoupissements qui peuvent nous arriver par l'œuvre de Satan. Alors ça, c'est une cinquième chose que le Saint-Esprit accomplit. Il nous rend plus conscients et sensibles à la présence du péché et aux attitudes qui vont à l'encontre de la mode de vie de Dieu et sa volonté. En sommes-nous toujours aussi conscients et sensibles, frères et sœurs? Il faut que ce soit le cas. Sixième chose que fait le Saint-Esprit, toujours dans l'évangile de Jean, revenons une ou deux pages en arrière, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que fait le Saint-Esprit que nous voyons ici? Nous voyons que le Saint-Esprit stimule notre mémoire pour que nous puissions nous rappeler de passages bibliques ou de principes spirituels ou de leçons que nous avons apprises de par le passé pour nous guider dans les situations présentes. Combien de fois cela vous est-il arrivé dans une situation peut-être où vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision concernant telle ou telle chose, et puis comme ça, il y a un passage biblique. Je ne parle pas des références, pas chapitre et verset, mais un verset vous vient à l'esprit, qui vous guide, ou une leçon que vous avez prise de par le passé, ou quelque chose que vous avez entendu dans un sermon, que vous avez lu dans un article. Combien de fois cela vous est arrivé, que les mots vous viennent à l'esprit et vous guident? Ça, mes frères et sœurs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous guider correctement dans la compréhension de la parole de Dieu et de nous rappeler ces choses au bon moment. Maintenant, nous devons faire attention parce que cela ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois qu'il y a un passage qui nous vient à l'esprit, que c'est automatiquement le bon passage. Nous devons, la Bible nous dit, tester les esprits parfois. Nous devons réfléchir, est-ce que cette pensée qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut ou est-ce que c'est une idée à moi? Parce que nous générons également nos propres idées. Satan aussi peut générer des idées dans nos esprits. Et Satan aussi sait citer les Écritures. Et ça nous arrive des fois de trouver des gens qui croient bien connaître les Écritures, qui citent des passages, mais les citent comme, sans le savoir, un peu comme Satan l'a fait dans Matthieu 4 quand il tentait le Christ. Satan aussi citait les versets, mais les citer de manière tordue. Et ça, nous voulons éviter cela. Évidemment, nous voulons être sur nos gardes là-dessus. Mais je ne parle pas de ces choses-là. Je parle de situations où c'est très clair. Et c'est très encourageant, n'est-ce pas, quand nous avons le bon passage, le bon mot qui nous vient à l'esprit au bon moment pour nous guider
dans une situation quelconque qui peut nous arriver dans la vie. Et ça, frères et sœurs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses, basées sur la Bible, bien entendu. Il nous aidera à comprendre les Écritures. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit agit sur notre mémoire pour nous aider à comprendre les choses au bon moment, pour que nous puissions être guidés dans les décisions que nous devons prendre dans la vie. Ça, c'est une sixième chose que le Saint-Esprit fait. C'est l'Esprit de Dieu à l'œuvre quand nous avons ces expériences-là. Septièmement, nous allons aller à Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Verset 13, pour voir le contexte, ne pas couper la phrase. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est le sang de Dieu qui purifie notre vie, c'est-à-dire les péchés sont enlevés. Mais ici, il est même question d'une purification dans notre conscience. Une purification dans notre conscience. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu convainc notre conscience quand nous nous égarons, quand nous tombons dans le péché, nous sommes touchés au cœur quand nous nous rendons compte. Comme David, quand il a péché, Nathan est venu dire, c'est toi l'homme qui a fait ça. Et David s'est repenti. Et il a fait ça de manière très éloquente dans les psaumes. Il a demandé à Dieu de le purifier, de le pardonner, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit convainc notre conscience quand nous nous égarons, quand nous tombons par mégarde dans le péché. Le Saint-Esprit affine, aiguise notre conscience pour que nous soyons de nouveau très sensibles à toute faute, à tout égarement que nous pourrions effectuer. Et notre conscience devient très sensible. La conscience d'un chrétien devrait être très sensible à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et, mes frères et sœurs, nos consciences doivent rester sensibles. Car il y a un danger, nous pouvons esquinter notre conscience, nous pouvons abîmer notre conscience. Le Saint-Esprit œuvre à, comme j'ai dit, aiguiser notre conscience pour que nous soyons motivés à nous repentir, à demander pardon à Dieu, à changer de ligne de conduite. Dans le même ordre d'idée, regardons 1 Timothée chapitre 4. Parce que là, c'est là où il est question de ce piège, de ne pas bien prendre soin de notre conscience. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 et 2. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque, notez bien ici, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est marqué ici dans la version seconde, qui porte la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça, c'est une manière de bien tourner le français, mais en fait, dans le grec, c'est plus direct et l'analogie est plus frappante. La version Darby le traduit, ayant leur propre conscience cautérisée. Et en fait, c'est ça ce que le grec veut dire, littéralement. Il est question de brûler sa conscience. La Bible de Jérusalem traduit le verset « des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience ». Vous savez, quand on subit une brûlure très intense, ça peut tuer les nerfs qui se trouvent dans cette partie du corps. Et par la suite, nous n'avons que peu de sensations, ou parfois pas du tout de sensations. Si nous avons des séquelles de brûlure, parfois il y a peu ou pas de sensations du tout. Et c'est de cette analogie-là que Paul parle ici, quand il parle d'hommes qui ont été, leurs consciences ont été brûlées, cautérisées, il n'y a plus de sensation. Il ne ressent plus quand il transgresse la loi de Dieu, quand il transgresse la volonté de Dieu. Nous devons protéger nos consciences, frères et sœurs, notre sensibilité au péché. Et comment est-ce que nous le faisons? C'est quand notre conscience nous pique que nous agissions tout de suite, que nous faisons quelque chose. Nous ne le remettons pas au lendemain, ben je verrai ça après. Quand nous sommes convaincus, quand notre conscience nous dit « Oh là !» Eh bien, nous devons tout de suite nous mettre à l'œuvre pour changer les choses, pour revenir dans la ligne de conduite que Dieu voudrait que nous ayons. Si nous remettons le lendemain, et nous remettons le lendemain, et nous disons pas maintenant, pas maintenant, en fait, petit à petit, nous sommes en train de cauteriser nos consciences. Parce que nous sommes en train d'incorporer en nous le message, ça ne presse pas, c'est pas si important que ça, ça peut attendre. Et en réalité, frères et sœurs, ça ne peut pas attendre. Alors, que fait le Saint-Esprit, ce septième point, c'est qu'il purifie nos consciences d'œuvres mortes. Il attise notre conscience, le rend plus sensible, et nous devons protéger cela. La huitième chose qui est mentionnée se trouve dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est quoi la puissance qui agit en nous? Eh bien, de nouveau, c'est le Saint-Esprit, c'est cette puissance-là, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Parfois, le Saint-Esprit agit en nous à la vitesse de notre pensée. Sans que nous ayons vraiment même le temps de réfléchir, Dieu nous aide à avoir de bons réflexes, si je puis dire. Il nous donne la puissance d'une maîtrise de soi immédiate, même avant que nous n'y pensons. Nous sommes confrontés à une situation, non, notre réflexe est « je ne vais pas faire ça ». Je ne vais pas faire cela. Je ne vais pas suivre ce chemin plus loin. Je ne m'y engage pas. C'est le refus immédiat et tout de suite. C'est ça la puissance d'une maîtrise de soi immédiate. Une puissance qui va au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est même, ça va au-delà de la vitesse de notre pensée, parfois. Et cela, frères et sœurs, ça devrait être de plus en plus le cas pour nous. D'avoir des réflexes en accord avec la volonté de Dieu. La puissance de Dieu est infinie, frères et sœurs, et nous avons cette puissance à disposition, la puissance qui agit en nous. Quand nous pensons à la puissance que les hommes ont pu découvrir, nous voyons que les hommes maintenant ont su déchaîner même l'atome, des explosions atomiques qui dépassent notre entendement. Et parfois nous avons des exemples même dans la nature de la puissance dont cet univers physique est capable. J'ai lu récemment l'exemple de l'éruption volcanique du mont Sainte-Hélène qui a eu lieu le 18 mai 1980. À 8h32 du matin, la montagne a littéralement explosé. Cette explosion a déchiré 400 mètres du sommet de la montagne. Les 400 derniers mètres ont disparu. Ils n'étaient plus là. La force de cette explosion était la même que 10 000 tonnes de TNT. C'est-à-dire 500 fois la puissance de l'explosion de la bombe atomique sur la ville de Hiroshima. Il y a eu quelques personnes qui ont été tuées à 25 km de là, dans cette explosion, par la vague de chaleur à 300 degrés ou plus qui a déferlé de cette explosion. Des arbres de 50 mètres, donc des arbres très forts, de 50 mètres haut, ont été abattus à 27 km. De l'explosion. Ça, c'est une puissance qui dépasse un peu notre entendement. Mais tout cela, frères et sœurs, n'est rien comparé à la puissance de notre Père Céleste, qui a créé des soleils qui a créé des planètes, qui a créé des soleils bien plus grands que le nôtre, avec une puissance atomique qui se déchaîne là que nous ne pouvons même pas comprendre, même pas cerner. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et c'est la puissance, c'est sa puissance qui agit en nous. C'est par cette puissance qui agit en nous, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas penser ou demander, nous le devons. Mais c'est très encourageant de savoir que cet esprit si puissant est à l'œuvre en nous. Est-ce que nous ressentons l'aide de Dieu? Est-ce que nous le demandons? Parfois, Dieu ne fait pas sentir très directement cette puissance. Il veut que nous apprenions à nous pencher sur lui même quand nous ne le ressentons pas. Mais de temps en temps, frères et sœurs, quand même, de temps en temps dans nos vies, nous aurions dû ressentir l'aide de Dieu. Nous aurions dû ressentir, là, j'en pouvais plus dans cette situation-là, et pourtant j'ai réussi à avancer quand même. Et dans ces cas-là, c'est Dieu qui intervient par son Saint-Esprit. C'est une chose qu'accomplit le Saint-Esprit de Dieu. Une neuvième chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies se trouve dans Romains chapitre 5 et le verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par son Saint-Esprit, notre Père nous transmet son amour même, l'amour même de Dieu, l'amour pour nos frères et sœurs, et même pour nos ennemis, car Jésus a dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent, et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu fait. Au moment où Jésus était crucifié, torturé à mort, il aimait ceux qui étaient en train d'accomplir cette torture atroce. Ça, c'est l'amour de Dieu. Frères et sœurs, nous ressentirons souvent une impulsion d'amour pour les gens que nous côtoyons, c'est-à-dire de bienveillance, d'amitié, désir de les aider. Et il faut que nous nous soumettions à ces impulsions de respect, de patience, de douceur, d'appréciation pour autrui. Car ces influences-là nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui répand dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, son amour. Est-ce que nous sommes sensibles encore à cela? Vous savez, parfois avec le temps, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons devenir plus endurcis. Le monde est difficile à vivre, les gens sont parfois méchants. Et quand nous ressentons ces élans d'amour, de respect, le désir d'aider les gens, parfois nous avons peur que ce soit mal pris ou mal vu, ou peut-être qu'on ne devrait pas. Nous devons faire preuve de sagesse, bien entendu. Et nous devons nous soumettre à ces impulsions. Parce que ces impulsions d'amour pour les autres, comme j'ai dit, de bienveillance pour ceux que nous côtoyons, ça fait partie de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Et nous devons chérir ces sentiments-là. Parce que c'est l'attitude de Dieu, c'est son amour lui-même, l'amour de lui-même, qui nous transmet à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle est notre attitude vis-à-vis des uns des autres, vis-à-vis des gens que nous côtoyons? Est-ce que nous avons une attitude de bienveillance? Est-ce que nous avons une attitude plutôt rude, sur la défensive? Ce sont des questions à nous poser. Et à demander à Dieu de réactiver ce don de son Saint-Esprit en nous, cet amour que nous pouvons avoir. Ça fait partie de ce que son Saint-Esprit accomplit en nous. Dixième chose que fait le Saint-Esprit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est un passage que vous connaissez bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Nous voyons ici à travers ces différentes choses, en fait, on pourrait, j'ai déjà fait un sermon, même on peut faire plusieurs sermons sur le verset 22, tout simplement. Mais toutes ces qualités-là nous viennent à travers le Saint-Esprit, à travers l'Esprit qui agit en nous. Également le fait de ne pas porter envie les uns aux autres, de ne pas être gonflés d'une vaine gloire, au verset 26, tout cela aussi est dû à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Je vais juste prendre un instant pour parler un peu de la foi. Le Saint-Esprit nous transmet une foi dynamique et courageuse. En fait, la même foi qu'avait Jésus-Christ lui-même. Et cette foi-là nous guide à travers toute la vie. De mettre notre confiance en Dieu d'abord, en ce que Dieu dit d'abord, en ses promesses d'abord, avant ce que nous voyons de nos propres yeux. Ça, par exemple, à vous qui êtes un peu plus jeune dans l'Église, peut-être que vous regardez autour de vous et vous ne voyez pas de conjoint possible dans l'Église pour vous. Et il est tentant de dire, et c'est fini, je vois rien, donc il n'y a rien. Mais ne soyons pas aussi rapides à arriver à cette conclusion. Dieu voit beaucoup plus que nous, et il est peut-être en train de préparer quelqu'un maintenant. Il peut nous faire attendre des fois. Et il le fait parfois pour fortifier notre foi. Mais nous devons avoir foi et courage que si nous faisons les choses comme Dieu nous dit de le faire, ça va tourner à notre mieux. Ça sera le mieux pour nous à la longue. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons cette foi dynamique, ce courage qu'avait Jésus-Christ lui-même, d'obéir à Dieu coûte que coûte, quelles que soient les circonstances, même si c'est difficile. Et en tout cela, il nous donne aussi une paix, une patience, pour accomplir la volonté de Dieu. Une tranquillité, une foi dynamique, un courage, mais aussi une tranquillité dans notre obéissance à Dieu. Alors quand nous regardons autour de nous, comme Daniel voyait la fosse au lion, comme Shadrach, Meshach et Abednego voyaient la fournaise ardente, et se disaient peut-être, les carottes sont cuites. Mais non, parce que Dieu voyait des choses que eux, ils ne voyaient pas. Et quand on met sa foi en l'Éternel, il agit. Il agit parfois de manière à nous étonner. Mais nous devons mettre notre confiance en lui et agir par la foi. Et cette foi nous vient par le Saint-Esprit. C'est quelque chose que le Saint-Esprit met en nous. Onzième chose, l'avant-dernier, je vais me référer à Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez que le Saint-Esprit, toutes les qualités que nous avons vues jusqu'à présent, vont couler, nous viennent de Dieu, mais ils vont couler de notre sein. C'est-à-dire que l'œuvre du Saint-Esprit, les qualités du Saint-Esprit, les progrès effectués par le Saint-Esprit, ne vont pas rester embouteillés en nous-mêmes, mais les effets seront visibles aux autres, seront même palpables parfois aux autres. Dieu fait en sorte que les qualités, le caractère, la personnalité que Dieu développe en nous circulent, sortent aussi de nous-mêmes pour toucher les autres, découlent de Dieu à travers nous et envers autrui. C'est-à-dire que les gens qui nous côtoient dans la vie devraient voir une différence. Ils devraient voir des personnes qui prennent plus de temps pour les autres, qui montrent un meilleur exemple dans leur conduite personnelle, une meilleure honnêteté, une gentillesse, une douceur, une amabilité. Ces choses-là ne devraient pas rester embouteillées en nous ou être visibles seulement quand nous sommes entre nous aux assemblées, mais devraient également se répandre à notre entourage. Les gens devraient ressentir les effets du Saint-Esprit, indirectement, à travers ce qui se passe dans nos vies. Est-ce vrai pour vous et pour moi, frères et sœurs? Les gens que nous côtoyons, est-ce qu'ils voient quelque chose de différent dans nos vies? Est-ce qu'ils aiment, apprécient notre compagnie? Parce qu'il y a une différence, il y a quelque chose qu'ils remarquent qui est différent? Ça devrait être le cas. Et si nous ne pensons pas que c'est le cas, eh bien c'est le moment de demander à Dieu de renouveler cette qualité en nous, de renforcer cet aspect, de permettre à ces fleuves d'eau vive de couler de notre sein et de toucher d'autres personnes quand Dieu permet que ces situations se rencontrent. Et puis finalement, douzième manière dont travaille le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, je me réfère maintenant, en dernier lieu, à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le Saint-Esprit nous donne, nous l'avons déjà vu dans d'autres passages, une certaine paix, même une paix qui dépasse l'entendement parfois. Le Saint-Esprit nous rassure, le Saint-Esprit nous réconforte dans la connaissance que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes destinés à son royaume, que nous sommes co-héritiers avec Christ. Même quand nous devons traverser des moments difficiles, les souffrances, nous avons cette assurance, cette certitude que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu, notre Père, ne va pas nous délaisser dans les situations difficiles de la vie. Alors le Saint-Esprit nous rassure, le Saint-Esprit nous donne un équilibre, nous stabilise dans la vie. C'est une chose étonnante des fois de voir des chrétiens passer à travers des épreuves très difficiles, des épreuves de santé, des épreuves familiales, des épreuves de l'emploi, des épreuves d'autres choses. Et pourtant, même dans ces souffrances qui peuvent parfois être très éprouvantes, ils maintiennent leur stabilité. Ils maintiennent leur cap et leur stabilité parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur d'eux-mêmes, qui agit comme contrepoids à toutes ces choses qui peut nous agiter dans la vie. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Nous avons cette assurance, ce courage, cette confiance que nous sommes enfants de Dieu, destinés au royaume de Dieu. Et cette assurance-là, frères et sœurs, nous devons garder très précieusement également, parce que c'est une chose précieuse. Quelle œuvre magnifique, mes frères et sœurs, Dieu accomplit dans nos vies par son Saint-Esprit. Nous avons passé rapidement en revue ces 12 moyens, il y en a d'autres. Plusieurs des passages que nous avons lus, vous pourriez encore ressortir différents aspects de ce que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies, en particulier Galates chapitre 5, verset 22, mais dans d'autres endroits aussi, il y a plusieurs œuvres accomplies par le Saint-Esprit. Et je vous encourage à réfléchir là-dessus, peut-être à approfondir l'étude que nous avons commencée aujourd'hui. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons être et nous devons rester sensibles à l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies tous les jours. Et nous devons nous soumettre à ses influences. Quand nous avons un élan envers une des points que nous avons vus aujourd'hui, nous devons nous soumettre à cet élan, participer, aller de l'avant avec ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. À nous de demander à Dieu de renouveler son esprit en nous, et à nous aussi de nous soumettre à ses influences, à ses motivations pendant notre séjour dans cette vie physique. Parce que c'est comme cela que Dieu va nous guider. Dieu nous guide par son Saint-Esprit. Il nous fait croître par son Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Dieu nous amène jusqu'à la vie éternelle dans son royaume. Et cela pour toute l'éternité. Je vous souhaite une excellente fin de votre fête de la Pentecôte.